Et bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Et ben, on se retrouve donc comme tous les mardis pour le débrief du national. On est là ensemble pour parler une heure uniquement du championnat national. Donc on va revenir dans la première demi-heure sur cette 22e journée. 22e journée pour le moins tronquée, puisque seuls 3 matchs sur les 10 qui étaient prévus se sont déroulés en raison des conditions météo, comme vous le savez sans doute. On aura dans la deuxième partie de l'émission le joueur du FC Rouen, Stéphane Vincent, pour revenir avec nous sur son début de saison et puis parler un petit peu avec lui comme on a pu le faire la semaine dernière avec Jimmy Roy. Donc voilà, on va enchaîner en parlant donc des matchs qui étaient au programme. On finira par Martigues-Rouen, dont on discutera un petit peu avec notre invité par la suite. Et donc on va commencer par un match qui était au programme ce week-end et où on a eu une sacrée surprise avec cette équipe du Red Star qui est allée donc s'imposer à Nîmes sur le score de 4 buts à 3. Donc petit retour en arrière, le Red Star donc évidemment en fin de tableau se déplace à Nîmes. Le Red Star va mener 2-0, ensuite Nicolas Benezet revient à 2 buts à 1, puis le Red Star prend l'avantage 3-1. Nîmes arrive à revenir à 3-3 à 5 minutes de la fin avec notamment 2 buts de Sédou Koné qui en profite par la même occasion pour s'emparer de la tête du classement des buteurs. Et puis dans les toutes dernières minutes du match, c'est le Red Star qui s'impose 4-3. Comme souvent dans ce cas-là, on a envie de dire que c'était un petit peu écrit. Le Red Star qui avait mené 2-0, qui avait mené 3-1, il pouvait finalement que s'imposer dans ce match-là. Et voilà, l'histoire était peut-être écrite comme cela. Et donc le Red Star qui va ramener 3 points vraiment très importants dans la course au maintien. Le Red Star, c'est vrai qu'on leur reprochait un petit peu en début de saison de pas forcément de déployer un beau jeu, mais de pas forcément prendre les points. Et puis là, ils y arrivent un petit peu. Il y avait eu cette belle victoire face à Rouen à domicile. Là, ils vont gagner à Nîmes. Donc on voit que le Red Star, ils sont capables aussi de prendre des points et face à n'importe qui, même face au plus gros annoncé de ce championnat. Votre sentiment, messieurs, peut-être pour rentrer un petit peu dans l'émission sur cette désillusion nîmoise et le beaucoup du Red Star.
Non, mais c'est assez étonnant. Le score est quand même fleuve. 4-3, c'est pas souvent qu'on voit ça en national. C'est plus des scores avec 5 buts d'un côté et 1 ou 2 de l'autre. C'est plus déséquilibré. Là, c'était vraiment équilibré. Puis le Red Star qui est vraiment lancé dans le combat pour pas descendre, la lutte féroce pour le maintien. Et cette victoire, ça montre qu'ils ont vraiment envie, qu'ils sont allés la chercher, parce qu'ils marquent le but victorieux à la dernière seconde. Donc ça montre une force de caractère assez importante et de combat présent, qui sont présents pour le combat et qui veulent se battre, pour pas que déjà ce club mythique retombe encore plus bas dans les profondeurs du football français. Et oui, 4-3, en plus, c'est à Nîmes qui lutte pour les premières places, donc c'est important pour... ça va leur mettre la confiance, et puis après, il va falloir enchaîner derrière. C'est toujours le plus dur d'enchaîner, mais c'est vrai que c'est une grosse victoire qui va leur faire du bien au moral.
Ouais, une victoire qui va vraiment leur faire du bien au moral. Pour revenir sur le Red Star, pour compléter un peu ce que tu disais, il faut quand même pas oublier que le Red Star en début de saison aussi, il se préparait d'abord à jouer en CFA, puisqu'ils ont été repêchés un petit peu à la dernière minute avec tous les relégués à cause donc de problèmes financiers. Donc et c'est vrai qu'il a fallu aussi peut-être se rentrer vraiment dans ce championnat national et tout ce qu'il demande. Et voilà, c'était je pense un des problèmes importants qu'a dû affronter le Red Star en début de saison. Thomas, Clément, vous voulez peut-être un petit peu compléter.
Ouais, je voulais juste dire que c'est vrai que, comme tu disais, Red Star se préparait pas forcément pour jouer en national à l'intersaison, mais tout comme Bayonne d'ailleurs, mais je trouve quand même que le Red Star s'en tire vraiment mieux que Bayonne, et comme le montre si bien ce match-là. Mais c'est vrai que moi je veux dire, c'est vrai que le Red Star a pris 3 points dans une rencontre très importante où ils pensaient peut-être plus à arracher le match nul qu'à la victoire. Mais c'est vrai que c'était quand même un contexte difficile, hein, parce que il faisait quand même moins 5, hein. On se demande pourquoi le match n'a pas été reporté comme les autres. C'est moins 5 et bon, un vent encore, je pense, qui est comme partout en ce moment, un vent glacial. Mais c'est vrai que le Red Star, ben, a fait un match plein, c'est jamais, elle a toujours mené, ça c'est aussi important. Donc je pense que pour le dans la tête, ils étaient à chaque fois devant au score, et c'est aussi important. Même si Nîmes a à chaque fois bien réagi, mais le Red Star a réussi dans les dernières secondes à marquer. Ça prouve que vraiment cette équipe peut vraiment se maintenir, et moi je pense qu'elle se maintiendra en fin de saison dans ce championnat national.
Ouais, c'est vrai que les conditions météo, on en a pas trop parlé, mais c'est vrai qu'à Nîmes, la pelouse, c'était jouable, mais je pense que ça restait quand même limite. Et souvent, dans ces matchs-là, soit on voit des tristes zéros où il se passe rien, ou alors on va voir des matchs avec finalement des avalanches de buts parce que c'est difficile de défendre, et si les attaquants s'engagent vraiment bien. Ça peut faire pas mal de buts, et on l'a vu à tous les niveaux. Je pense même à certains matchs de Ligue 1 où on voyait les gardiens qui ont glissé, etc. Enfin, des buts assez improbables, et bon, donc ça peut faire des 0-0 comme on a eu la semaine dernière avec le déplacement de Beauvais à Épinal où la pelouse était vraiment très difficile et c'était vraiment difficile de jouer au foot. Mais ça peut faire des fois, même si c'est difficile de jouer au foot, des matchs avec des avalanches de buts, ben, comme ça a été le cas au Costières vendredi soir. Pour être complet sur le Red Star, on va écouter la réaction de Vincent Ducanti, le coach odonien, et ensuite on parlera un petit peu de Nîmes.
Bah, à la mi-temps, ouais, je m'attendais plus à une grosse difficulté pour nous, et ça a été le cas. Après, le dernier but, bon, c'est la petite cerise, hein. Moi, je savais qu'on allait souffrir en deuxième mi-temps, mais bon, je savais qu'on avait du mental, mais là c'est en train de me surprendre à chaque fois, quoi. Chaque fois ils me surprennent. Ouais, parce que déjà les conditions, c'est tout ou rien ces matchs-là, donc ça peut faire un 0-0 tout bidon. Puis ça fait un 4-3 en notre faveur, ça aurait pu être aussi dans l'autre sens, ils auraient pu marquer 3 buts en deuxième mi-temps. C'est en notre faveur, on prend dans notre situation, même comme ça, on prend. Oui, on a profité, on a surtout joué sur nos qualités. Après, les errements de la défense, je pense que ça a été aussi par rapport à la qualité de nos attaquants, ça les a mis en difficulté, plus que eux ont fait leur match, nous on a fait un bon match. Devant, on a fait un très bon match. Je me dis qu'ils vont avoir une semaine très très compliquée. Je pensais déjà à doubler presque tous les jours, donc non, je me suis dit, bon, le chrono il passe moins vite, hein, dans ces cas-là. Mais bon, le football c'est ça, on fait ce sport pour ça, et pour passer par toutes les étapes, par toutes les émotions, et nous c'est notre cas aujourd'hui, et puis c'est bien parce qu'on gagne.
Pour revenir sur un petit peu sur l'équipe de Nîmes, on a eu encore Benoît Poulain, le capitaine, qui était aligné au milieu, donc en sentinelle devant la défense. Les supporters, quand on leur parle un petit peu de positionnement, ils sont pas vraiment d'accord, parce que Stozic Poulain, ça a été vraiment la meilleure charnière qu'a aligné les Croconimois depuis le début de la saison. Le problème, c'est qu'il y a eu, si Poulain doit aller au milieu, c'est parce qu'il y a des joueurs absents. On a Corrèze et Sissane qui sont out jusqu'à la fin de la saison. Après, on a des joueurs comme Ameou ou Sébastien Pecel qui sont décevants et qui du coup n'arrivent pas à s'imposer dans ce milieu nîmois. Et donc ça explique qu'on doit toucher à la charnière côté Thierry Froger. Après, c'est le problème, parce qu'on avait vu plutôt une bonne solidité défensive de Rouen, de Nîmes la semaine dernière à Rouen, puisqu'ils étaient sortis sans prendre de but. Mais bon, il faut voir, finalement c'était peut-être un petit peu dû à la chance, et la défense de Nîmes reste quand même un petit peu le point faible, et notamment avec le capitaine Poulain qui doit aller au milieu derrière, etc. C'est un petit peu difficile pour vraiment établir une solidité défensive. On pense la semaine dernière à Froger, qui a vraiment critiqué sévèrement les quatre joueurs offensifs de son équipe. on voit quand même que derrière, il y a quand même d'autres problèmes et donc il faudra en tenir compte sur cette fin de saison. Et puis pour conclure, est-ce que aussi avant le match, les Nîmois ne sont pas dit voilà, on sort d'une victoire à Rouen 1-0. Maintenant, c'est seulement le Red Star qui arrive. Ça veut dire victoire obligatoire. Je sais pas, est-ce qu'ils n'ont pas pris un petit peu cette équipe du Red Star de haut? En tout cas, si c'est le cas, bien mal leur en a pris, puisque donc ils ont été punis et donc se retrouvent avec 0 points. Et comme Rouen a gagné, du coup, ils perdent à nouveau leur place sur le podium.
J'espère pas quand même qu'ils ont pensé que la victoire a été acquise avant le match, vu la soufflante de leur coach après le match face à Rouen. Et je pense que ça a été le cas aussi toute la semaine. Hein. Il a dû encore pas mal revenir sur ce match de Rouen, même si les critiques étaient peut-être infondées. Mais je pense qu'il a quand même le coach leur a passé quand même une belle soufflante après le match, je pense, à Rouen. Et j'espère vraiment pas qu'ils pensaient que ce match était gagné d'avance, parce que sinon le coach devait être encore plus irrité après cette défaite face au Red Star.
Ouais, après moi je disais ça, ouais. C'est vrai que c'était plutôt c'est quelque chose que j'avais ressenti au niveau des supporters quand tu lisais un petit peu les réactions avec comme ils restaient quand même sur cette série de 3 victoires et puis notamment donc cette belle victoire à l'extérieur. Ils voyaient à nouveau, ils parlaient donc du calendrier qui arrivait pour Nîmes avec donc la réception du Red Star, ensuite il y aura un déplacement à Besançon, et puis un déplacement à Martigues et la réception de Cherbourg. Donc c'était vraiment 4 matchs face à des équipes quasiment toutes relégables. Donc c'est vrai que ça voulait dire une possibilité d'engranger des points. Donc c'était dans ce sens-là, tu vois, si les supporters ont peut-être un petit peu vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Est-ce que, tu vois, ça se faisait pas un petit peu inconsciemment, tu vois, même inconsciemment, est-ce que les joueurs ne se sont pas dit ça, quoi? Ils sortaient d'une belle victoire à Rouen, ils avaient battu Fréjus 4-1, donc avec la manière. Même si, bon, c'est sûr, on peut revenir sur les matchs, Froger les avait mis en garde, il y a eu la critique après Rouen, il y avait eu des critiques même après Fréjus, ouais, quand son équipe avait gagné 4-1. Mais bon, voilà, quoi. Est-ce qu'inconsciemment, t'as joué des grosses équipes? Après, tu reçois quasiment que les relégables pour tes 4 prochains matchs. Voilà. C'est pour ça. Est-ce que psychologiquement, t'as pas un petit relâchement? Après, bon, c'est sûr, on a vu aussi des conditions de jeu difficiles pour ce match-là. Voilà. Est-ce que c'est tout pour ce Nîmes Red Star? On enchaîne sur Cherbourg-Fréjus. Donc Cherbourg, là par contre dans le bas du classement, une autre équipe qui gagne de belle manière. Et donc Cherbourg qui met fin à cette série catastrophique de matchs sans victoire, on avait dit depuis le 30 septembre, je sais plus, début octobre, fin septembre, enfin bref, c'était de longs mois sans la moindre victoire. Et ben là Cherbourg qui a battu une assez faible équipe de Fréjus qui a pas montré grand-chose sur ce match-là, et donc les Cherbourgeois qui en profitent pour gagner des points précieux dans la course au maintien. Comme le Red Star, Cherbourg restait sur un match nul encourageant à Vannes la semaine dernière. Et puis là, dans des conditions de jeu acceptables cette fois, dues notamment à une température qui est toujours plus douce au bord de la mer. Donc ça fait un petit micro-climat, on m'a expliqué ça. Des Cherbourgeois m'ont expliqué ça, ce qui explique la différence de température entre Cherbourg et des villes qui ne sont finalement pas si éloignées. Et donc voilà, donc une pelouse qui était tout à fait jouable et Cherbourg en a profité pour gagner enfin et signe donc une victoire méritée, tant les Cherbourgeois ont dominé cette pâle équipe de Fréjus de la tête et des épaules en première mi-temps. Donc petit rappel des faits, en première mi-temps c'est les locaux qui dominent, mais domination stérile, ils dominent seulement au point, ils se créent les meilleures occasions mais il faudra seulement attendre la 71e minute et un boulet de canon du latéral droit Abdoulaye Fofana. On mettra la vidéo sur la page Facebook du débrief du National. Je vous invite vraiment à la voir parce que sa frappe est vraiment magnifique. Ça leur permettait d'ouvrir le score. Ensuite, Cherbourg n'a pas lâché ses 3 points et la recrue hivernale qui arrive en provenance de Rouen, Jonathan Kodjia, qui est prêté à bien trouver ses marques à la pointe de l'attaque cherbourgeoise. Donc il est aligné dans un 4-3-3 où ils ont beaucoup tourné. En tout cas, il a rendu une belle copie pour sa première à domicile. Et puis donc il a rapidement trouvé ses repères dans ce 4-3-3. Voilà, ce que je voulais dire, c'est que sa copie aurait même pu être encore mieux si la transversale n'avait pas renvoyé sa frappe à un quart d'heure de la fin. Mais bon, voilà, Cherbourg s'en contentera. La soirée est bonne. Cherbourg gagne, met fin à cette série terrible de matchs sans victoire. Et puis au niveau des points positifs, Cherbourg passe devant Martigues, dont on va parler tout à l'heure, puisque les Martégons ont été battus à domicile. Surtout, Cherbourg n'a pas pris de but, ça leur était pas arrivé depuis le 22 octobre, j'ai regardé, donc c'est quand même assez impressionnant. Et puis ils ont trouvé donc un nouvel élément offensif avec donc Jonathan Kodjia, prêté par le Stade de Reims. Et on va écouter tout de suite les réactions de la dernière recrue cherbourgeoise.
Oui, tout à fait, de toute façon, comme avec les coachs, avec les joueurs, il fallait qu'on remonte cette difficulté, parce que ça fait 4 mois qu'on n'arrivait plus à gagner. Donc quand on s'était fixé un objectif, aujourd'hui on l'a réalisé, je viens d'arriver, donc j'arrive un peu dans la bonne humeur, tout s'est bien passé et je suis très content. Quoi. Tout à fait. Moi c'est très bien passé, il faut savoir que les joueurs ils sont très aimables, il n'y a pas de soucis. Franchement au niveau de l'intégration, ils m'ont bien aidé, ils m'ont conseillé, ils m'ont bien montré comment ça se déroulait ici. Donc après, bon voilà, moi je suis arrivé, j'étais relaxé, il n'y a pas de souci. Et puis bon voilà, maintenant aujourd'hui, c'est à moi de continuer les performances et de les aider à se maintenir. Avec le coach, c'est de toute façon 1-2-3, moi qui aimais Sylvie, on l'a dit qu'on variait en fait. On n'avait pas vraiment de poste fixe, donc ça peut tourner, moi je suis à gauche, je suis à droite, un peu à droite, un peu à gauche. Donc voilà, en fait c'était une bonne petite variation et de toute façon ça se passe très bien comme ça, donc on va continuer comme ça, c'est ça. C'est vrai que j'y ai pensé, parce que j'ai vraiment bien réalisé le geste technique. Non, pas de bol, hein, j'ai tiré sur la barre. Et après, de toute façon, ça avait commencé dès l'entraînement. À partir du moment où je suis arrivé et qu'à l'entraînement, j'étais bien, de toute façon, je retrouve mes sensations. Malgré que je revienne d'une blessure assez difficile, mais bon, voilà, je m'en retrouve, je reprends mes sensations et ça se passe bien. Ouais.
Sinon, côté Fréjus, Thomas, une grosse désillusion. Une équipe qui n'a guère mis en danger l'arrière-garde cherbourgeoise. Et finalement, la seule satisfaction pour cette équipe de Fréjus, c'est le gardien Mathieu Dreyer qui a sorti, lui, une copie plutôt pas mal. Le score aurait même pu être encore plus lourd s'il n'avait pas sorti son match, quoi.
Ah oui, tout à fait. C'est comme tu dis, la satisfaction. Puis ça montre que quand même s'il est parti de Sochaux pour se relancer, il a bien fait puisqu'il est quand même efficace. Fréjus, on dit à chaque fois c'est tout le temps pareil. J'ai l'impression de me répéter chaque week-end. Chaque fois on dit à domicile c'est solide, c'est pas trop, c'est efficace et à l'extérieur c'est friable, faible. J'ai l'impression qu'ils prennent les matchs par-dessus la jambe. À l'extérieur, ils partent déjà en victime, en fait. C'est l'impression que j'ai un peu. Puisque Cherbourg, comme tu dis, c'était sur. Ça faisait depuis fin septembre qu'ils n'avaient pas gagné, donc ça faisait quand même longtemps. Après, on peut penser qu'il y a eu une réaction de Cherbourg, mais quand on voit le niveau affiché par Fréjus sur ce match, on peut s'inquiéter quand même.
Ouais, c'est surtout ça qui est inquiétant. Bien sûr, après une série, à chaque fois qu'elle continue, elle se rapproche aussi de sa fin par rapport à la série de matchs sans victoire de Cherbourg. Mais c'est vrai que c'est la prestation d'ensemble de Fréjus qui est vraiment inquiétante. En plus, on pense pas qu'on puisse incriminer la pelouse sur ce match-là. Donc c'est ça surtout qu'il faudra suivre dans les prochaines semaines. Mais est-ce que, même si on l'avait peut-être déjà dit, mais là maintenant ça va faire beaucoup trop et pour Fréjus.
Non, c'est fini là c'est fini.
C'est fini.
C'était une des dernières occasions quoi. Ici qu'ils sont quand même sont plus je pense que moi c'est caboute, hein, c'est fini. Ils peuvent plus justement ce match ça pouvait un peu les relancer pour recoller au classement puisque on aurait eu un petit aperçu puisqu'il y a quand même 7 matchs qui ont été reportés mais bon. Ça aurait pu faire un aperçu parce que là ils sont à 8 points du 3ème Nîmes, donc même de Rouen qui est 4ème. Parce que je remarque que entre le 2 Épinal, Nîmes et Rouen, ils ont le même nombre de points. Sauf qu'Épinal a un match à moins. Mais donc et Fréjus a 30 points, donc ça fait 8 points de retard. C'est un peu voilà quoi. Puis une différence négative. Moins 4, alors que Rouen a 3 et Nîmes 16 et Pinal 10, donc tu vois déjà il y a déjà des points de retard aussi au niveau du goal average.
Et moins 4, ah, tu ouais. parles de la température ou du goal average là à ce niveau-là?
Non, le goal average. Attends, ouais, non, je vais voir raison, les stats ouais. à l'extérieur, il me semble que c'est une hécatombe. Fréjus, ils sont. Attends. Fréjus, 8 défaites à l'extérieur, non, tu peux pas. Tu peux pas prétendre à une montée hein, avec 8 défaites à l'extérieur.
Ouais, c'est vrai qu'à la domicile, ils ont pas perdu, mais qu'avec les 8 défaites à l'extérieur, le problème c'est. C'est beaucoup trop. Ah non, non, si, ils ont perdu.
Bah, même, je vais te dire quelque chose, c'est le club qui a le plus perdu à l'extérieur, donc. Voilà.
Ouais, puis même, ils ont un nombre de défaites ouais, assez impressionnant. Avec plus de avec 10 défaites, c'est vrai que ça.
Dans 8 à l'extérieur.
Ouais, et c'est un boulet, ça, qui t'empêche de monter. Pour conclure sur cette journée, donc Cherbourg, pour le prochain déplacement, ils iront à Rouen. Après, il faudra voir si au niveau des conditions météo, on peut jouer ce match. Et ensuite, recevront le Red Star, donc deux équipes du bas de classement qui ont gagné. Il faudra voir laquelle est. Et le mieux parti dans ce match-là, avec le résultat de ce match-là, pour se maintenir. Côté Fréjus, prochain match, la réception du Paris FC, et ensuite un déplacement à Épinal, donc des matchs pas évidents à jouer pour cette équipe de Fréjus. Ouais. On aborde le dernier match qui était au programme donc, de cette journée, et c'est donc la réaction de Rouen qui va s'imposer à Martigues 2-0. Rouen donc qui va s'imposer à Martigues 2-0. Oui, Rouen donc qui met fin à cette série de défaites de trois défaites consécutives, et Martigues par contre qui ne voit toujours pas le bout du tunnel. Thomas, tu peux nous faire un petit rappel des faits sur ce match-là?
Oui, alors Rouen qui devait prendre les 3 points face à Martigues après leur défaite face à Nîmes qui leur a fait plutôt mal hein, la semaine passée, et donc c'était une équipe de Rouen assez motivée qui arrivait au stade de Martigues où bon le terrain n'était pas si mauvais hein, le terrain était en assez bon état, et donc les Rouennais ont fait un match plus que correct sans grosse bévue avec un but de Mendy et un but de Rodriguez. Qui le fait capitaine. Que ouais le capitaine non le capitaine c'est William Louis Romain.
Ah oui, c'est vrai non c'est le défenseur d'expérience, mais oui, voilà. C'est pas le capitaine.
Et donc c'est une belle victoire en gros pour les Rouennais qui sont à la 4e place à l'affût, égalité avec les autres avec Nîmes et Épinal, mais Épinal a encore un match en moins au vu de des rencontres qui ont été reportées ce week-end, les nombreuses rencontres. Donc Rouen a fait une bonne opération. Hein, comme on sait, un match en retard n'est pas forcément un match gagné. Hein, donc.
Et ouais. Donc tu mets toujours la pression en plus. Tu mets toujours la pression.
Voilà.
Sur...
Voilà. C'est juste que moi qui disais que Épinal depuis le début de la saison, je pensais pas qu'ils allaient encore tenir. Je me dis peut-être que c'est maintenant où la pression va commencer à être grande, que c'est l'occasion justement pour les Rouennais de mettre la pression aux autres équipes comme Épinal ou même Ajaccio qui en cas de victoire sur le match en retard dépasse Rouen, et ça sera l'occasion justement de leur montrer et qu'il faudra compter sur eux justement pour se bagarrer jusqu'à la fin pour la montée en Ligue 2.
Ouais, c'est vrai que ça sera à suivre, et c'est vrai que oui, on a dit pour Fréjus ça va être compliqué, mais maintenant, enfin ça va être même terminé. Maintenant le championnat ça va se jouer vraiment avec les 6 de devant. Niort a toujours un petit matelas quand même assez confortable d'avance. Mais c'est vrai que ouais, des équipes comme Ajaccio, comme Vannes, c'est vrai que bon, il va falloir un petit peu plus de continuité pour cette équipe vantaise. Si elle veut espérer une montée, mais c'est vrai que ça va nous faire une fin de championnat pas mal, et c'est vrai que est-ce que Épinal va pouvoir supporter la pression, parce que maintenant c'est clairement la montée, ça va être clairement annoncé comme un objectif, même s'ils vont pas l'annoncer directement, mais bon, quand t'es deuxième à plus de la moitié du championnat, évidemment que tu regardes pour monter en Ligue 2.
Oui, mais ils vont dire on est prudent, c'est pas encore fait, le maintien n'est pas assuré. Non, mais je pense que déjà ils s'y attendaient pas à être aussi bien placés à pareille période, quoi. Donc ça va être une bonne surprise et je pense que ça doit motiver les joueurs de pourquoi pas aller dans l'élite la saison prochaine, quoi. Si Épinal arrive en Ligue 2, ce sera vraiment un truc.
Ils feront comme Evian ou comme Arles-Avignon. Après, ils gagnent la Ligue 2 l'année d'après et à plat, ils sont ouais. T'imagines Épinal en Ligue 1 et dans les Vosges?
Non, mais Épinal, il n'y a pas vraiment de voilà quoi de gros noms. Et, tandis qu'à Arles et à Evian, il y avait quand même. À Evian, tu avais des investisseurs, tu avais.
Quand ils étaient à l'Assemblée nationale, Arles, ils n'avaient pas grand-chose. Hein.
Mmh. Ils avaient quand même des anciens joueurs pas mal, quoi. Qui avaient quand même fait leur.
En national
preuve. Ouais. Il me semble.
Alors, il faut vérifier, mais franchement, ils avaient déjà pas mal recruté quand ils étaient passés du national à la Ligue 2. Et après, ils avaient beaucoup recruté sans doute trop, et ça a fait qu'ils n'ont pas pu suivre en Ligue 1. Mais oui, après, ça, franchement, c'est. Il faudrait qu'on en fasse peut-être, pourquoi pas, un petit débat dans les prochaines émissions, mais. C'est vrai qu'il y a énormément d'équipes ces dernières années qui sont passées en deux ans du national à la Ligue 1. Et c'est vrai que ça peut être à suivre. Si tu as une équipe assez solide en tête du championnat national, après elle peut jouer les premiers rôles en Ligue 2. Et tu le vois cette année avec Bastia, par exemple, qui est encore en course pour la
montée. Bastia, ils ont fait un recrutement intelligent. Rotem, Maulida.
Je dirais que c'est des équipes qui ont entre guillemets déjà des bonnes bases du fait qu'ils ont déjà connu le statut professionnel des fois. Et par exemple, une équipe comme Niort qui a un très bon centre de formation, une des meilleures équipes jeunes, je pense. Enfin, il me semble que ça a été publié sur leur site il n'y a pas si longtemps. Du coup, ça peut être une très bonne base pour monter directement en Ligue 1 et pourquoi pas se faire une place. Après, tu sors des jeunes qui sont capables de tenir la maison et ça te fait une équipe comme Nancy qui reste en Ligue 1. Malgré le manque crucial de stars entre guillemets pour viser l'Europe par exemple, mais qui maintient sa place chaque année, quoi.
Après, tu parles d'équipes avec une grosse structure là, comme New York. Ils ont effectivement connu plusieurs années de Ligue 2, donc t'as quand même un club qui est bien structuré. On en avait parlé la semaine dernière avec Jimmy Roy. Mais moi, je pense à des équipes comme Arles-Avignon. Tu vois, c'était pas du tout
mais structuré. Justement, je suis en train de regarder. Ils ont fini troisième quand même, donc c'était limite. Hein. Quand ils passent en 2009 pour monter de National à Ligue 2, ils finissent 3ème.
Ah, mais derrière, ils refont 3ème et ils remontent en Ligue 1.
Ouais. Donc, c'est la continuité, mais c'est vrai que c'est. Ils n'ont pas survolé comme Evian l'a survolé leur parcours, tu vois. Il est comparable, mais c'est pas le même. Des faits, c'est pas pareil, quoi.
D'accord. Mais moi, je te dis juste le fait d'enchaîner les deux montées. Tu regardes sur les dernières années, t'as plein de clubs qui y sont arrivés, quoi.
Ah ça oui, je suis d'accord. Ouais.
Et donc voilà, après ouais, c'est lié forcément à un recrutement intelligent, mais c'est pas forcément lié à des clubs qui avaient des grosses structures. Après peut-être pour durer en Ligue 1, Clément, là je vais te rejoindre et je vais dire que ça va être des clubs qui sont plus structurés, parce qu'on voit que Arles-Avignon a eu du mal, même Grenoble, après qui était monté en Ligue 1 et qui avait pas assez de structure, ils l'ont payé assez rapidement, quoi. Bon, et on arrive à la moitié de l'émission et donc on va passer à notre invité. Et donc Stéphane Vincent du FC Rouen, le numéro 10 du FC Rouen, nous fait l'amitié de participer au débrief du national. Et donc on va tout de suite l'accueillir. Eh bien bonjour et merci donc Stéphane Vincent d'avoir accepté notre invitation sur RTS Radio pour parler un petit peu du championnat national.
Bonjour, il n'y a pas de quoi.
Alors on va commencer par une petite présentation. Donc que faut-il savoir concernant Stéphane Vincent?
Que faut-il savoir? Déjà dans un premier temps, je suis footballeur au FC Rouen et on essaye de monter en Ligue 2 et j'essaye d'apporter ma pierre à l'édifice pour remplir ce résultat.
Alors pour clarifier un petit peu, donc au FC Rouen tu évolues à quel poste cette saison? T'as été aligné à différents postes? Nous détailler.
Je suis plus milieu offensif sur le côté gauche, voire le côté droit.
D'accord. Et après, tu as été aligné avec un petit peu la pénurie d'attaquants, tu as été aligné en pointe aussi?
Oui, j'ai été aligné une fois en pointe à l'Uznac et une deuxième fois au Red Star. Mais sinon, j'ai principalement évolué sur le côté.
D'accord. Donc, c'est un dispositif avec un attaquant et trois milieux offensifs derrière.
Voilà, c'est ça. Ouais, c'est comme ça.
Ok. Sinon, pour finir, tu es originaire d'où ?
Je suis originaire de Paris.
D'accord.
Et après, je suis parti à l'âge de 12 ans et demi à Saint-Étienne, où j'ai effectué pratiquement toute ma formation. Je suis resté 10 ans là-bas. Et j'ai signé mon premier contrat pro là-bas et j'ai été prêté une première année à Raoul-Étape en national il y a 6 ans. Et après, l'année d'après, j'ai été à Guignon en Ligue 2, en prêt aussi. Et suite à ça, il me restait encore un autre contrat avec Saint-Etienne. J'ai résilié au bout de 6 mois. C'était ma dernière année de contrat, donc il fallait quand même que j'ai du temps de jeu. Enfin, j'ai eu l'opportunité d'aller à Cannes. Je suis parti à Cannes où je suis resté un an et demi. On a essayé de monter en Ligue 2 aussi, pareil, mais bon, on a fini quatrième la première année et la deuxième année, on a fini sixième. Et après ça, je suis parti au PFC, où pareil, l'ambition était de monter en Ligue 2, mais bon, avec les résultats, c'était un peu moindre. Et me voilà à Rouen, tout simplement.
Alors juste, j'ai deux petites questions par rapport à ça. Originaire de Paris, et pourquoi après tu vas atterrir à Saint-Etienne ? C'était une question d'opportunité sportive ou...
Bon, en fait, à la base, j'avais fait les essais Clairefontaine avec la génération 86 qui était passée à la télé. Je sais pas si vous vous souvenez, où il y avait Ben Arfa, Ntiapa Mfounou, tout ça.
Ah, tu étais avec eux à Clairefontaine?
Non, j'avais fait les essais pour y aller, j'ai été pris. Mais mon frère qui avait 2 ans de plus que moi avait déjà signé à Saint-Etienne. Et mes parents souhaitaient que j'aille avec lui. Donc c'est pour ça qu'au final, j'ai pas été à Clairefontaine et j'ai été à Saint-Etienne.
D'accord, donc c'est pour ça que t'as rejoint Saint-Etienne si tôt. Donc c'était par rapport pour suivre ton frère. D'accord. On reviendra après sur les différents clubs dans lesquels tu as évolué. J'avais juste une question, donc ouais, tu l'as abordé brièvement. T'avais signé donc un contrat pro avec Saint-Etienne, donc toi t'as déjà signé pro.
Oui.
T'avais signé pour 3 ans, c'est ça, si j'ai bien
compris. C'est ça. En fait, c'était un contrat élite. C'était 2 ans stagiaire et 3 ans professionnel.
D'accord. D'accord. Et après, avec Cannes, t'as signé direct que des contrats de type fédéral ou
après, ouais, c'était que des contrats de type fédéral chaque année. Après, bon, on verra bien plus tard.
Ok. Bon, on y reviendra un petit peu après. On va parler de ton club donc aujourd'hui, parce que c'est quand même bien ce qui nous intéresse oui. De parler du FC Rouen. Thomas, tu nous fais une petite synthèse des différents matchs de Stéphane sur le début de saison.
Ouais. Bah, Stéphane, c'est tout simplement 12 matchs, si je me trompe pas, 12 matchs en tant que titulaire, 12 matchs sur la feuille de match, pardon, et 13 en tant que remplaçant seulement. Donc, à chaque fois, tu as été titularisé dès que tu en avais l'occasion. Tu avais deux passages où, donc là, faudra juste que tu me clarifies quelque chose. En ouais. Septembre, tout le mois de septembre, tu n'avais pas joué. C'est bien ça?
Avec Rouen?
Oui,
ouais.
Cette saison.
Le mois de septembre. Ah oui, tout le mois de septembre, c'est vrai que j'ai été blessé, oui, effectivement. Je suis blessé contre Cherbourg.
Ouais, parce que j'avais vu sur le site officiel, il est marqué réathlétisation. Donc j'avais pas trop compris.
Ouais, bon, des fois, ils emploient des termes un peu.
C'est ce que me disais.
Et non, au final, ouais, j'étais un peu blessé. Je m'étais blessé à la mi-temps contre Cherbourg, là-bas, le 2 septembre, je crois que c'était. Et ouais, non, j'étais blessé, tout simplement.
Ouais, et aussi en décembre, là, par contre, j'ai pas trouvé sur le site officiel, j'ai pas trouvé de justification.
Ouais, bah là, pareil, j'étais blessé à l'épaule, et bon, ils savaient pas trop exactement ce que j'avais. J'ai été voir un chirurgien quand même pour voir s'il fallait quand même que je me fasse opérer ou pas. Mais ouais, non, j'étais blessé aussi, ouais.
D'accord, et sinon, tous les autres matchs, tu as été quasiment tout le temps titulaire, à part trois fois où tu as commencé sur le banc. Et tu fais quasiment le plus souvent des matchs entiers, hein, faut signaler. Tu as joué en tout à peu près 1200 minutes depuis le début de la saison et marqué un but. Est-ce que tu as comme vocation aussi t'aimerais marquer plus de buts ou ce but c'est pas ton principal attribut, mais on sait quand même que ce but a été important parce que c'était quand même contre Nîmes.
Ouais, non, bien sûr, c'était un but important qui était contre Nîmes. Mais après, c'est vrai que moi j'aimerais marquer quand même plus de buts, hein, je vais pas me mentir. Mais non, c'est vrai, je fais quand même plus de passes décisives, c'est ça qui me caractérise peut-être le plus. Après, bon, en ce moment, j'ai joué un peu de malchance. Il y a les gardiens qui ont fait des arrêts de folie ou moi qui ai fait les mauvais choix aussi. Donc, mais bon, je pense que là, en ce moment, je suis quand même en jambes. Donc, j'espère que ça va rentrer d'ici peu.
Ouais, mais après, tes passes décisives, quand même, t'es souvent incisif sur le terrain et t'arrives souvent à amener l'action sur le but adverse. Et après, t'as juste à tes collègues de finir le boulot. Donc, en tant que passeur décisif, c'est déjà tu fais déjà du bon boulot, je trouve en tout cas. Mais c'est vrai que si tu veux marquer des buts, c'est peut-être le petit plus qui fera Mais c'est vrai que moi je vais revenir un peu sur tes saisons passées. T'es passé dans plein de clubs avec qui t'essaies de monter quoi.
Oui. Ouais.
Et tu joues parfois malchance parce qu'avec Cannes c'est pas passé loin.
Ouais, c'est sûr.
BFC, il y a eu plus de complications. Vous étiez fini dans le milieu de tableau l'année dernière, et puis l'année dernière, il y avait aussi du lourd devant. Hein.
Ouais, il y avait du très lourd.
Cette année c'est plus dégagé. Donc avec Rouen, il y a eu aussi un passage à vide avec Rouen ces derniers temps. Donc avec le club qui a eu des mauvais résultats, mais bon, comme devant, ça pas non plus une allure très. Très fulgurante.
À part Niort qui part un peu là, mais sinon, ouais, c'est vrai que c'est ouvert.
Ça, c'est très ouvert, donc voilà quoi. Vous avez bien réagi face à Martigues, c'est ça? Face à Martigues, et donc va falloir maintenant pour vous juste continuer parce que vous avez eu un passage à vide en espérant que ce soit le seul de la saison.
On espère aussi, hein, c'est vrai que. Ouais. Ouais, dans chaque saison, je pense qu'il y a toujours un petit passage à vide. Nous, c'est vrai qu'il a un peu duré. C'est un peu dommage parce qu'on a perdu quand même pas mal de points. Mais après, là, comme tu as dit, on a réagi contre Martigues. Après, on espère entamer une petite série de victoires qui pourra nous faire recoller un peu et prendre un peu de distance sur certaines équipes.
Oui, je voulais rebondir sur ce que tu disais, Thomas. Quand vous êtes dans la spirale négative que vous avez traversée avec Rouen, dans le vestiaire, comment vous l'avez vécu? Est-ce que ça vous travaillait? Vous attendiez vraiment la prochaine victoire? Ou alors est-ce que vous la relativisiez en vous disant qu'il y a forcément des passages à vide dans une saison?
Non, au départ, c'est vrai qu'on prend quand même des petits coups, entre guillemets, sur la gueule, mais non, dans le vestiaire, ça se passait quand même relativement bien. Il y a des mecs d'expérience, je pense notamment à Stéphane Morisseau, Franck Chaussidière ou Michel Rodriguez, même le capitaine William Muron, qui nous remettent un peu les pieds sur terre. C'est vrai qu'après, il y a une petite soufflante après les matchs, mais on se disait qu'on faisait quand même des bons matchs, donc on se disait qu'on allait quand même rebondir. Après, c'est vrai qu'à un moment donné, ça tardait un peu. C'est pas que le doute il commence à venir, mais bon, on commence à se poser des questions. Après là, il fallait quand même repartir sur une victoire pour espérer autre chose.
Ouais, donc cette victoire, c'était le match à Martigues. On va y revenir. Déjà, au niveau de la jouabilité, puisque c'est quand même ce qui a pas mal marqué cette 22e journée de nationale, l'état du terrain, ça disait quoi? C'était jouable ou c'était quand même vraiment difficile?
Non, honnêtement, franchement, à Martigues, ça a été nickel. Pourtant, il faisait quand même moins 2, mais la pelouse, elle était nickel et on était même tous étonnés. Parce que franchement, honnêtement, venant de Rouen, où il faisait un petit moins 9. Mais non, ça a été, franchement, la pelouse, elle était nickel, contrairement à tous les stades en France.
D'accord, donc il n'y avait absolument aucune raison de reporter ce match. Et donc, ça s'est déroulé dans des conditions tout à fait normales.
Tout à fait normal, ouais.
Thomas, tu voulais réagir par rapport à ça?
Ouais, non, c'était juste pour revenir juste à la saison. Vous trouvez pas que vous jouez un peu de malchance parce que vous avez quand même énormément de blessés. Comme on voit là, Rudy Carli, il a été quand même appelé.
En renfort,
justement parce que toute votre attaque est décimée par les blessures et depuis le début de saison et ça continue quoi entre Endo, Dugimon et d'autres, c'est un peu la galère quoi et ceci explique peut-être cela aussi sur les mauvais résultats.
Tout à fait, c'est vrai que cette année contrairement aux autres clubs où j'étais là ça a été vraiment, on a eu des hécatombes et à un moment donné on perdait 5 joueurs après ils revenaient on en reperdait d'autres ça faisait un petit effet boule de neige. C'est pour ça qu'à mon avis au mois de novembre on a eu un passage vraiment un petit creux là mais c'est vrai que c'est compliqué, on sait pas vraiment quelle en est la cause. Après pour le moment on fait avec, on est bien obligé.
Et Rudy, t'en penses quoi? Tu l'as vu à l'entraînement, déjà son contrat il a été homologué, c'est ça?
Ouais, c'est fait.
Et donc il risque de commencer bientôt?
Ouais, il risque de commencer bientôt. Bah Rudy, déjà je le connaissais déjà en jeune, on avait fait quelques sélections équipe de France en jeune ensemble, où on évoluait soit lui devant et moi sur les côtés. Et non, c'est un bon joueur honnêtement, même c'est un bon mec. Et je pense qu'il peut nous apporter lui aussi, c'est peut-être pas le buteur qu'on attend. On a déjà deux buteurs, Endo et Dugimon, mais il peut nous apporter quelque chose dans le jeu, je pense.
Non, mais c'était celui qui devait nous apporter à Strasbourg en CFA2. C'est pour ça.
Ouais,
parce
ouais.
Il avait dit s'il trouvait pas de club d'ici fin janvier.
Ouais, c'est ça. Parce que je crois qu'il s'entraînait déjà avec Strasbourg, non?
Il s'entraîne depuis le début de la saison quasiment à Strasbourg. Il a fait.
Ouais, voilà, c'est ça. Ouais.
Il a fait des quelques tests à Anvers, je crois, en Belgique et dans l'Est de l'Europe. Mais il s'est entraîné depuis le début de la saison. Donc, vous avez quand même un buteur qui a une certaine condition physique.
Ouais, c'est correct.
Il va pouvoir vous servir, je pense.
Ah ouais, parce que moi, quand il est venu quand même 2-3 jours à l'essai, au départ, je m'étais dit, comme ça faisait 6 mois qu'il avait. Enfin, je ne savais pas qu'il s'entraîne au départ avec Strasbourg. Putain, il est arrivé, ça, il avait une bonne condition. Il était affûté.
Ah, mais chez nous.
À Strasbourg, on travaille bien.
Ah ouais. Nous, on ne craint pas le froid, nous, on a des.
Ouais. Ok. Juste pour revenir encore, pour continuer un petit peu sur ta saison, t'avais vraiment démarré la saison, on peut dire sur les chapeaux de roue avec notamment le but dès la troisième journée à Nîmes. Depuis, de plus marqué, on y revient un petit peu. Mais est-ce que ça te travaille, ou alors est-ce que tu dis que tu compenses dans le jeu autrement? Est-ce que le fait de pas marquer, c'est quelque chose à laquelle tu t'attaches?
Honnêtement, oui, quand même. Parce que, mine de rien, je suis quand même un joueur offensif, hein, je ne vais pas le nier. Hein. Même si j'aime faire des passes décisives, mais marquer, c'est quand même toujours important. Après, comme j'ai dit, il y a des matchs où j'ai peut-être fait les mauvais choix, d'autres où j'ai joué un peu de malchance, il y a un peu des deux. Mais pour le moment, là, je pense que contrairement à une petite période en novembre où on était tous un peu moins bien, ou même moi, je pense que j'étais un petit peu moins bien, là, je commence à retrouver les jambes, comme je disais. Et si je tente beaucoup plus, et je pense que si je continue sur ce rythme-là, je pense que ça va revenir.
Ça va finir par payer, ouais. Oui, au niveau des blessures, on parlait tout à l'heure de la blessure de Rémy Dugimon. Il va être indisponible encore combien de temps, là? Vous allez le récupérer bientôt ou pas?
C'est le cas du Gimon, c'est vraiment compliqué parce que c'est le syndrome de l'essuie-glace. Alors là, je l'avais jamais entendu celle-là.
Explique non plus.
Ouais. En fait, il a un problème au genou. Et dès qu'il court, ça fait comme l'essuie-glace. Et c'est son os qui vient taper le ménisque, où j'ai pas tout suivi. Mais en gros, ça fait mal et ça partira comme c'est venu. Mais on sait pas quoi en fait. Il y a rien à faire dessus. Donc c'est compliqué.
Ah ouais, c'est compliqué, surtout au niveau de indisponibilité, ça vous arrange pas vraiment, parce que vous savez vraiment pas du tout quand vous allez pouvoir le récupérer.
Ouais, c'est ça le problème. Mais bon, pour le moment, c'est pour ça que je pense qu'on a recruté Rudy aussi, donc on verra bien. Hein. Pour le moment, faut faire ça de toute façon, hein. On est bien obligé.
Hein. Eh ben ouais, c'est sûr. Donc là, ce week-end, vous gagnez, puis comme Nîmes ne gagne pas, ça compense un petit peu la défaite de la semaine dernière. Ouais. Pour revenir un petit peu sur ce match de la semaine dernière, quel était le sentiment dans le vestiaire après un tel résultat? Parce qu'on a vu des réactions finalement des coachs assez paradoxales, puisqu'on voyait le coach de Nîmes, je sais pas si tu as vu, qui critiquait sévèrement son équipe, et puis votre coach plus protecteur, on va dire, par rapport aux joueurs. Est-ce que vraiment ça se ressentait, ça, dans le vestiaire?
Ouais, honnêtement, ça se ressentait, même nous sur le terrain. Hein. Je pense qu'on fait peut-être le meilleur match de la saison, mais on marque pas et on prend un but. Donc forcément, c'est délicat. Mais non, on en a tiré que du positif, puisque c'est vrai qu'on a fait un gros match. On les a bousculés dans tous les domaines. Après, ils marquent sur une demi-occasion. C'est vrai que nous, ça nous fait chier, mais après, c'est le football. Mais ouais, les réactions des coachs, je pense qu'elles étaient normales. Parce que je m'étais dit, si Nîmes continue à jouer comme ça, je pense qu'ils allaient perdre quelques matchs. Donc, moi, ça a été le cas contre le Red Star ce week-end. Donc, et nous, si on continuait pareil sur la même, sur ce qu'on faisait là, en marquant des buts et en essayant de pas en prendre, ça allait là où. Et nous, ça nous a souri aussi.
Pour continuer là-dessus, là vous pensez vraiment, ouais, tu dis avec le fait d'avoir récupéré les joueurs blessés, que tout le monde soit revenu à 100%, vous pensez vraiment que tous les voyants sont ouverts pour vraiment démarrer une nouvelle spirale positive comme a pu connaître Rouen, on va dire septembre-octobre?
Ouais, je pense que là on commence à avoir certains automatismes et avoir un 11 type, voire on va dire un 13 entre guillemets qui se dessine pas mal. Donc les voyants sont verts. Après nous, c'est à nous les joueurs de prendre les matchs les uns après les autres et essayer de prendre les 3 points à chaque fois, tout simplement.
Pourquoi je sais pas si vous avez encore des questions sur la saison en cours, mais sinon moi j'avais une dernière question sur le FC Rouen. Pourquoi le choix du FC Rouen à l'intersaison? parce que bon, le Paris FC c'est aussi un club qui peut nourrir des ambitions dans le championnat national. Déjà, c'est le club qui te contacte, qui t'explique leur projet, ou c'est plutôt toi qui allais chercher de leur côté?
Non, c'est eux qui me contactent pour me proposer leur projet. Après, je pense que les deux projets entre le PFC et le FC Rouen sont pas les mêmes du tout, je pense. Ouais, au PFC, c'est un peu plus compliqué. Il y a moins de structures. C'est vrai que, ne serait-ce que pour faire des repas entre joueurs, tout le monde habite, ils sont un peu éparpillés sur Paris. C'est compliqué pour se retrouver. On met trois quarts d'heure, une heure, voire une heure et demie. Donc, c'est un peu plus compliqué. Mais au FCR, enfin, il y a des structures, il y a un public, ne serait-ce que ça, le public, c'est quand même important. C'est pas qu'à Charletti, il n'y a pas de public, hein. Bon, mais c'est un peu plus morose, on va dire. Il y a pas grand monde, quoi.
Ouais, c'est vrai. Et puis il y a une concurrence aussi à Paris par rapport aux autres sports.
Ouais, voilà.
Et donc tu disais, ouais, même pour souder l'équipe, pour faire des trucs à côté, là t'as une grosse différence.
Ouais, là il y a une grosse différence. Je vois, nous on fait des repas pratiquement une fois tous les deux semaines et on se retrouve quand même assez souvent avec l'équipe. C'est quand même, je pense, vachement important.
Ah ouais, bah c'est bien. Vous avez donc une belle vie de groupe à côté.
Ouais,
ouais. Donc pour revenir un petit peu, pour parler un petit peu du Paris FC, donc parce que notre invité la semaine dernière c'était Jimmy Roy, avec qui tu évoluais donc la saison dernière. Est-ce que le changement d'entraîneur, déjà, t'a conforté dans l'idée d'un transfert au Paris FC, ou du Paris FC vers le FC Rouen, ou alors ça n'a rien changé?
Non, moi honnêtement, le coach Vanucci, c'est le fait. S'il serait resté, je pense que j'aurais réfléchi à deux fois avant de partir. Parce qu'il avait un vrai projet. Après, je savais pas quel entraîneur allait venir non plus, donc c'était un peu le flou total l'année dernière au PFC. Parce qu'on savait que Vanucci partait, mais on savait pas qui arrivait. Après, c'était un peu compliqué, mais je pense que si Vanucci était resté, j'aurais réfléchi à deux fois. Ouais.
Est-ce que tu penses qu'on peut faire un deuxième club à Paris et donc arriver à monter une deuxième équipe de National en Ligue 2, ou tu penses que Paris, c'est trop compliqué pour arriver à gérer par rapport à tout ce qu'il y a autour, quoi, l'environnement d'un club parisien?
Bah, honnêtement, c'est possible, hein, mais faudrait avoir un budget, ouais, plus conséquent, parce que d'une, au niveau des structures, d'avoir des structures fixes, ou pas aller d'un terrain à un autre pour les entraînements, parce que je sais que ça se passe pour le PFC, mais pour Créteil de temps en temps aussi, pour les terrains d'entraînement, c'est pas évident. Mais un deuxième club parisien, c'est possible, mais ouais, faudrait vraiment un budget plus conséquent.
Ouais, enfin, genre, il faudrait quasiment deux fois ce qu'il y a à Rouen cette année.
Voilà, ouais, je pense. Ouais. Ouais, je pense pas que des investisseurs viendraient mettre autant pour un championnat national.
Ouais, c'est vrai. Bah, il faudra demander à Luis Fernandez. Je crois qu'il était intéressé par le Paris.
Ouais, mais j'ai eu l'impression que c'était un peu d'intox, hein, qu'il faisait. Hein. Je sais pas s'il a fait parler de lui ou parce qu'au final ça s'est pas fait. Hein.
Ouais, non, c'est vrai. Ça, c'était peut-être un petit coup de pub, ouais. Et ah oui, ça, j'avais une question par rapport à ça. Dès le début de saison, on vous a vendu directement de la montée. C'était directement un objectif clairement établi dès début août, on va dire.
Ouais, dès début août, hein, dès qu'ils ont essayé de nous recruter, c'était le projet, la montée.
Quand en début de saison dans les médias, on en parlait de Rouen, on le mettait un petit peu comme l'épouvantail de ce national avec le recrutement, etc. On en faisait vraiment le favori. Comment vous l'avez ressenti? Vous n'y avez pas trop fait attention ou...
Non, on n'y a pas. Bah, on est obligé d'y faire attention quand même, hein, même si on essaye de faire abstraction. Mais dès le départ, moi, je suis pas pour annoncer comme ça, peut-être le garder en coulisses entre nous, nous dire qu'on veut monter, parce que ça peut mettre une pression supplémentaire sur les joueurs et sur le club. Mais bon, au final, ça a été fait comme ça, et bon, bah, de toute façon, on l'a assumé. Hein. Maintenant, on verra en fin de saison si on va monter ou pas. Mm.
Moi j'ai une question, c'est par rapport justement à Niort et à Jimmy Roy, c'est que vous jouez le 2 mars pardon contre Niort à Niort, et comme vous battez tous les deux pour la montée, est-ce que c'est le tournant de la saison ou c'est un match à pas perdre, je sais, mais est-ce que tu t'envisages ça comme un tournant même si c'est que la 26e journée?
Bah, honnêtement, ça sera pas forcément un tournant, parce que c'est eux, je les vois premiers et je les vois continuer sur leur lancée. Je pense que c'est pas sur ce match que ça va se jouer, ça sera plus sur les soi-disant plus petites équipes, c'est plus contre eux qu'il faut pas perdre de points, je pense. Après, si on peut gagner contre Niort, on va pas se priver, hein. Mais je pense pas que ce soit un match charnière.
Tu dis ça pour faire plaisir à Jimmy, c'est pour ça.
Ouais. Non, non, honnêtement, quand on a joué contre eux, c'était à domicile. Moi, j'étais blessé. Je les ai vus des tribunes. Honnêtement, ils m'ont impressionné. Hein. Que ce soit dans le jeu, dans tous les domaines, c'était impressionnant.
Donc à l'heure actuelle, l'objectif, c'est finalement terminer deuxième de championnat national.
Ouais, bon, même si on finit troisième, hein, on va pas se faire. Ouais.
La montée.
La montée. Après, bon, si on peut finir champion, on va pas se priver non plus. Hein. Mais être dans les trois premiers, ça sera un beau cadeau.
La montée, ouais, ce serait bien. Vous jouerez dans des, tu pourras jouer dans des stades mythiques de Ligue 2.
Ouais, bah ouais, ça peut être pas mal. Bah déjà, ouais. Quand vous parliez de Strasbourg tout à l'heure, ça me fait mal quand même pour le club aussi.
Ouais, c'est ça. Oui, je sais.
Rien,
ouais,
c'est...
Moi aussi, ça me fait mal.
Ouais.
d'aller au stade de la Méno voir des équipes de CFA2.
Ouais,
là,
ouais, ouais, ça doit être dur, ça.
Mais bon. Ouais. Tu viens quand tu veux, hein, par contre, hein, jouer. Hein,
venir, c'est 4, pas de soucis. Il bah, y a Faisal Libi, non, qui joue à Strasbourg là.
Il y a, pardon ?
Il y a Faisal Libi qui joue là-bas.
Non, je sais pas. tu me.
Et ça se dit supporter, bravo.
Bravo.
Je absolument pas ce nom. Hein.
Libi, non ?
Je vois pas
il
du
a marqué,
tout.
Il a marqué. Il marque souvent, je pense, en ce moment. Hein. Et
David Lady.
Non, Libi.
Ah bah alors je vois pas alors.
Ouais, bah Marc Sour. Parce que ça se trouve il est parti au mercato, parce que je crois que
non parce que ça me dit absolument rien, hein, parce que moi je vais quasiment à tous les matchs, hein, mais ouais. D'ailleurs à Dijon, je voulais savoir aussi il y a combien de supporters, parce que après je ferai la comparaison, je te dirai chez nous combien à moyenne. Tu sais à peu près ou pas?
Oh, 4500 je pense.
OK, nous on est à 7000. Tant pis.
Oh putain.
Regarde comment il se vante là.
Non mais après, ce qui est dommage, c'est que c'est en CFA2 quoi.
Voilà. Ouais, c'est clair. Strasbourg, vous avez connu des matchs contre l'Inter de Milan, aujourd'hui vous jouez contre Mulhouse quoi.
Non, Mulhouse. Mulhouse c'est CFA. Non, attends.
Ah oui.
C'est même pas Mulhouse.
Non, Mulhouse c'est CFA. Non, nous jouons City Game, le derby de Strasbourg. City Game, c'est un quartier de Strasbourg, c'est la périphérie quoi.
Ah ouais, je sais, à l'époque quand j'étais en réserve à Saint-Etienne, je jouais contre toi. Il y avait un pote à moi qui jouait Romain Reynaud, je sais pas si vous connaissez.
Ouais, là je connais, oui.
Ouais. Mais faudra que je regarde Libi là, ça me trottait.
Sinon, mets-moi le nom quelque part, mais que je regarde aussi, mais ça me déprime.
Alors je viens de regarder en fait pour Faisal Levy là pour mettre fin au dilemme. En fait il joue à Grenoble, donc c'est pour ça que tu le connais pas Thomas dans les joueurs de Strasbourg, et donc il a été formé à Saint-Etienne, il est passé aussi par la réserve, comme toi Stéphane. D'ailleurs pour Saint-Etienne.
Tu disais que t'étais de la génération 86, au niveau du centre de formation, qui c'est que t'as côtoyé comme joueur? C'était quelle génération qu'on voit aujourd'hui qui ont signé?
Génération 86, il y a Dabo qui est à Lyon aujourd'hui. Sinon, il y a Jesse Moulin qui est encore à Saint-Etienne mais qui est prêté à Clermont.
Ah, bon.
Et sinon, il y avait Alexandre Barthes aussi qui est maintenant en Bulgarie, qui a été champion de Bulgarie l'année dernière. Et sinon c'est tout, hein. Sinon après j'étais plus sinon il y avait les 85 avec Bafé Gomis, Samy Houri, Loïc Perrin, tout ça. Sinon après bah voilà, hein.
D'accord, ok. Ah ouais, d'accord, mais donc 86 Dabo, etc. Ok, c'est pour situer un petit peu.
Emeric, notre Stéphanois de l'équipe.
Ah non, mais là aussi cette époque-là je suivais un petit peu, je suivais bien Saint-Etienne, et du coup les noms que tu me donnes, je vois ce qui s'était en réserve. Ouais, j'avais une question. Donc tu me disais que t'as évolué à Raon-l'Étape en prêt. Donc Raon-l'Étape, après c'est un club qui a eu des difficultés financières au moment de changer de président. Ensuite, ouais. T'avais été prêté à Guignon, Guignon qui évolue aujourd'hui en DH suite à de gros problèmes financiers, liquidation judiciaire, etc. Mmh. T'étais passé par la SCAN qui a été rétrogradée en début de saison par la NCG.
Oh merde,
je voulais savoir, est-ce que le passage de Stéphane Vincent, quand même, c'est quand même une star à payer, et du coup ça laisse un gros trou dans les caisses du club.
Non. Non, mais non, je suis un joueur modeste, hein. Enfin, j'ai pas forcément un gros, je suis pas l'un des plus gros salaires du club. Mais, tain, c'est vrai qu'en y réfléchissant, j'avais pas pensé à tout ça, là. J'ai tiré une corde là, mais...
Il va mal dormir la nuit, va
Non, mais.
Rassure-toi, Paris FC, financièrement, ça va.
Ouais, bah on verra l'année prochaine, on sait jamais. Non, mais je sais pas, non, c'est que. Bah, déjà à Cannes, c'est autre chose, hein. Je pense que la gestion du club, c'était un peu plus compliqué. Il y avait des trucs qui étaient. Je crois qu'ils avaient des antécédents depuis pas mal d'années. Après, avant l'étape, on sentait que c'était sur la corde raide, c'était un peu plus compliqué, il n'y avait pas trop de sous. En plus, le président est décédé il n'y a pas longtemps. Ouais. Après, Guignon, c'est encore autre chose, avec les VRL qui sont arrivés, qui ont pris un peu les choses en main. Mais ouais, c'est un peu compliqué tout ça.
Non, mais c'est vrai que j'avais mis le parallèle parce que je trouvais que c'était marrant de. T'as raison de détailler parce que c'est vraiment des situations très différentes.
J'ai d'arguments quand même, hein, parce que sinon.
Clément, peut-être je vais te donner un petit peu la parole.
Ah. Moi j'ai une question, puisque depuis le début de la saison je suis l'équipe de Quevilly. Est-ce oui. qu'on te parle plus ou moins de ce derby avec Quevilly?
Honnêtement, c'est un derby, c'est vraiment chaud ici. Hein. C'était autant. Déjà, heureusement qu'on l'a gagné à l'aller, parce que je pense que nos supporters ils l'auraient un peu mauvaise. Mais ouais, c'est un gros derby. Hein. Je pensais pas que c'était autant. Après, que ce soit dans les médias, bon, ça se tapait un peu la semaine quand on a joué, ça se tapait un peu d'un camp et de l'autre. Mais ouais, non, c'est un derby des costauds. Hein. Et sinon, c'est une belle équipe. Hein. Quevilly, c'est une équipe qui joue bien au ballon. J'ai bien aimé.
Et ils ont deux trois bons joueurs. Ouais, une belle victoire à l'extérieur en plus pour vous.
Ouais, bon, mais celle-là, franchement, on y était au courage, puisque derrière, après, je crois qu'on avait plus gagné un match à l'extérieur après ça. Là.
Et en plus, vous avez gagné à la 92e minute, donc bon.
Mais c'est pour ça, c'était un bon souvenir.
Ça ouais. devait être l'ébullition.
Ouais, en plus, chez nous, c'était bon.
Et puis le match retour avec le match donc sur le terrain de Rouen qui se situe dans la commune du Petit Quevilly, c'est bien ça?
Ouais, c'est exactement ça, ouais. Comment c'est fait, ouais. Mais ouais, bon, on verra, hein. De toute façon, on a gagné la première manche, on va essayer de gagner la deuxième. Hein.
Bah, c'est tout le mal qu'on vous souhaite.
Ouais, c'est gentil, on verra bien.
Oui, j'avais une dernière question et puis après donc on passera à la dernière partie, l'invité débrief national. Avant ça, est-ce que t'as un joueur dont tu t'inspires quand tu ouais tu, à la limite tu regardes un petit peu ce qu'il fait pour après toi c'est pas vraiment vouloir reproduire à l'identique mais
ouais non bah, à un moment donné c'est vrai bon il y avait Thierry Henry à l'époque mais celui que je regardais plus particulièrement c'était Sylvain Wiltord à un moment donné. Ouais, j'aimais beaucoup.
Bonjour, ouais.
Aujourd'hui un peu moins, je regarde, enfin je sais pas, je regarde moins les matchs, hein, mais j'ai moins de joueurs qui me. Après c'est facile, hein, je vais dire Messi ou Ronaldo, mais non, c'est à l'époque c'était Sylvain Wiltord. Ouais.
D'accord, mais parce que tu sentais que vous jouiez un petit peu dans le même registre et qu'il y avait des choses.
Ouais, bah je sentais que je pouvais avoir le même registre que lui. Après bon, lui il est un peu plus étoffé, hein, mais. Mais ouais, je pensais, ouais.
D'accord, et ben merci déjà d'être venu. Et puis on va conclure l'interview. Donc l'invité débrief national, 5 petites questions. Et puis là, bah tu nous réponds direct, hein, pas de langue de bois.
Ok.
Alors première question, cette saison, ton plus beau souvenir?
La victoire à Quevilly.
Ah ouais, le derby quand même, ça pèse.
Ça marque.
Deuxième question, l'adversaire qui t'a fait la plus forte impression? Dans ceux que vous avez rencontrés.
Niort.
C'est vraiment au-dessus au niveau du jeu d'équipe.
Au niveau du jeu d'équipe, ouais, collectivement et ouais, c'est vraiment pas mal. J'ai beaucoup aimé.
Le plus beau terrain sur lequel vous avez évolué.
Le plus beau terrain. Ah, c'est une bonne question. Ça. Plus beau terrain. Il n'y a pas de gros cette année. C'est pas évident. Non, je sais pas quel plus beau. Avant, j'aurais dit Guignon parce qu'à chaque fois que à Guignon, c'est exceptionnel la pelouse. Mais bon, sur la DH maintenant. non, ouais, bah Jochon en début de saison, on va dire.
Ouais.
Ouais. Ouais.
Le déplacement le plus difficile cette saison, c'est quoi?
Sachant que vous avez déjà joué à l'Uznac.
Ouais, franchement, bah c'est, j'allais y venir, ouais, c'est l'Uznac. Hein. Ah, c'est le plus dur. Ah, celui-là, franchement, il reste. Hein. Ah, c'est pas évident.
c'est vraiment pas évident. Bon, on va pas remettre un deuxième coup de couteau au supporters Luznac. On l'a déjà abordé la semaine dernière avec Jimmy Roy. Il sortait juste du déplacement à Luznac, donc on va pas trop s'étendre là-dessus. Mais on a bien saisi la nuance. Et puis dernière question pour conclure cette interview. Qui sera champion cette saison pour toi?
Ah, on va dire moi. Allez.
Nah, c'est bien ça.
Tu penses vraiment que vous pouvez arriver à remonter sur des équipes comme Niort, ou tu nous dis ça plus
assez beau. Je dis ça parce que j'aimerais, mais je vois bien Niort parce qu'ils ont beaucoup d'avance sur nous. Mais après, sait-on jamais si on fait une série, on verra bien.
Déjà, pour Rouen, l'objectif c'est d'être dans les trois.
Voilà, tout à fait, ouais. D'être dans les trois dans un premier temps, mais après, comme tu disais tout à l'heure, si on peut être champion, on va pas se priver.
D'accord, et ben donc je vais te demander de nous faire le petit cadeau que nous font tous nos invités, c'est-à-dire de dire c'était Stéphane Vincent sur RTS Radio.
Ah, c'était Stéphane Vincent sur RTS Radio.
Et puis une dernière question qu'on a posée la semaine dernière à Jimmy.
Ça finit jamais.
Finalement, nous a bien fait rigoler. Qui tu nous conseillerais d'inviter du FC Rouen pour une prochaine émission?
Du FC Rouen, franchement, un gars qui est bon, qui est vraiment bon. Et qui dit des trucs, qui dit pas mal de conneries, je pense que. Non, c'est Dugimon, invité Dugimon. Ouais, ah, n'hésitez pas.
Le message est passé, on va essayer de le contacter.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous, hein, c'était sympa. Hein.
Merci à toi.
Mais d'accord, merci, et puis peut-être une prochaine fois dans le débrief du National.
Ok, pas de soucis, ouais.
Et bien donc voilà, c'était Stéphane Vincent dans le débrief du National ce mardi. Donc l'émission touche à sa fin. La semaine prochaine, nous recevrons Kevin Lefex, l'attaquant de l'US Orléans. Donc voilà, bonne semaine à tous. Et puis donc, je vous donne rendez-vous mardi prochain. Allez, merci, bonne semaine, au revoir.